France Culture.
Vous n'entendrez pas ailleurs. Des lectures que vous n'entendrez pas ailleurs. Mesdames, messieurs, venez nombreux maintenant sur le stand. Ah, il y a l'autre là, il est coucou. Sur le stand Radio France pour l'enregistrement de Mauvais Genre. Mauvais Genre, l'émission que vous n'entendrez pas ailleurs. Avec des invités que vous n'entendrez pas ailleurs. Des textes que vous n'entendrez pas ailleurs. Des musiques que vous n'entendrez jamais ailleurs. Dépêchez-vous de venir, il reste encore quelques places. Et on parlera bien devant le micro. C'est capital. Collé. On est à la colle avec le micro. Voilà. L'événement du Salon du Livre, c'est maintenant sur le stand Radio France. L'enregistrement de l'émission Mauvais Genre. Le reste n'a aucun intérêt. Mais aucun. Alors venez, asseyez-vous, écoutez. Venez écouter Mauvais Genre.
On est très loin.
Ça commence dans 5 minutes. Si vous perdez une minute, vous aurez l'air de quoi ? Alors au lieu de faire la queue pour des auteurs qu'on aura oubliés dans 6 mois, venez plutôt écouter Mauvais Genre avec des livres qu'on n'oubliera jamais. Le monde est plein de gens qui n'ont pas pu venir écouter cette émission. Alors venez, vous qui pouvez. Faut être collé. Alors vous parlez dans le micro.
Ouais.
Vous parlez dans le micro. Prissade.
Oui.
Deux Prissades.
Tu as été Prissade aussi.
Deux Prissades à Mauvais Genre aujourd'hui.
Ah oui,
alors. Venez vous asseoir pour écouter quand même. C'est rare d'avoir deux Prissades pour le prix d'un.
L'apparence du vivant.
Tu as rencontré Laurence Vialet ou pas ? Elle était qui est au jury du Prissade ? Elle n'était pas là ?
Ça ne me dit rien.
C'est une elle est éditrice, traductrice.
Ah, bonjour monsieur.
Du jury.
Oui ?
Ça se rencontre tellement de gens cette année-là, c'était complètement fou, je ne me souviens pas de tout.
Bah d'accord, ouais. Vous m'en donnez un ?
Ça parle avec taxidermie ou même.
Oh !
D'accord.
Tu connais Dérol à Paris ou pas, le magasin Dérol de taxidermie ?
Très bien.
En rue du Bac.
Allez vous asseoir, ça va bientôt commencer. Merci,
ouais,
monsieur.
Bon, j'imagine que de temps en temps, tu te balades à Paris. Si tu vas rue du Bac, tu as le magasin Dérol qui est le plus vieux taxidermiste de Paris. Et c'est assez incroyable comme lieu.
Je peux faire du pied, là.
Ouais, faire du pied.
Rue Dérol ?
Non, c'est le magasin qui s'appelle Dérol.
Non, c'est par ici. C'est
peut-être...
C'est par ici, c'est pas par là, c'est par là. Terrible.
Parce que je suis à Paris, je repars demain.
Ah ben si t'as l'occasion de passer.
Voilà, si vous êtes Toulousain, venez écouter Mauvais Genre, vous entendrez des choses, vous aurez des révélations sur l'impasse des Ormes. L'étrange maison de l'impasse des Ormes dans la banlieue de Toulouse. Venez écouter Mauvais Genre.
Mais t'as commencé à.
J'avais 27 ans. Bon, oui, relativement jeune.
Cette rumeur extraordinaire. D'où vient ?
Ça à Bruxelles mardi.
Oui. Voilà.
Ouais.
Ça va bientôt, dans 30 secondes, l'événement du Salon du Livre démarre, c'est-à-dire l'enregistrement de Mauvais Genre, le reste n'ayant évidemment pas le moindre intérêt. Vous êtes intelligent, cultivé, vous êtes donc sur le stand de Radio France. Attention, silence, ça va démarrer. Voilà, merci cher Arnaud et à très très vite, c'est-à-dire à samedi prochain. Et vous écoutez France Culture. Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre. James Dean n'est pas d'erreur, c'est Mauvais Genre. Mauvais Genre, enregistré en ce samedi devant une foule immense dans le cadre du Salon du Livre de Paris. Mauvais Genre qui fera sienne donc la devise de James Dean, à l'instar des héros et héroïnes de nos deux invités, Jean-Baptiste Delamo, dont La Nuit ravagée, paru en Blanche Gallimard, revisite via une étrange maison tapie aux confins de la banlieue toulousaine les univers de Stephen King et de John Carpenter. Charlotte Bourlard, dont le dernier roman, une publication Diable Vauvert, lâche sur la terre les démons Rachel et Marie, version punk des sœurs Papin. Chronique en second temps d'émission, signée Fleur Hopkins, Loferon et Sean R. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir au public que je salue d'abord, avant tout et pour toujours. Merci d'être là. Mais combien sont-ils? Mais des milliers pour écouter l'enregistrement de Mauvais Genre au Salon du Livre, qui a la bonne idée de revenir dans le Grand Palais, qui est vraiment l'endroit qu'il lui faut pour pouvoir exister. Donc, bienvenue à toutes et à tous, que vous soyez présentes à l'enregistrement ou à l'écoute. Je salue Jean-Baptiste Delamo. Bonsoir, bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Bonjour. Vous êtes avec nous pour La Nuit ravagée et ça semblait inévitable que vous veniez à cette émission pour ce roman. Vous auriez pu venir avant, d'ailleurs.
Je pense que vous auriez pu m'inviter bien avant.
Oui, oui, mais ça, on a tous des torts. On porte tous les péchés du monde. Oui, vous auriez pu venir pour quel titre, par exemple?
Pornographia.
Pornographia, par exemple. Oui. Parlez dans le micro, surtout.
Oui.
Pornographia, hein.
Oui, Règne Animal aussi.
Règne Animal.
Bon, écoutez, c'est réparé, je
suis
là
aujourd'hui. C'est réparé, ouf, il est là. La Nuit ravagée, et vous allez voir à quel point sa présence se justifie pleinement, comme se justifie pleinement celle de Charlotte Bourlard, qu'on applaudit aussi. Allez hop, on applaudit, voilà. Qui publie au Diable Vauvert à 3,11 saute, et oui. À 3, on saute, mais vous étiez déjà célèbre pour un précédent roman, il y a quelques années, qui était, on peut en parler ?
L'apparence du vivant.
Voilà, c'était paru chez Inculte, ça travaillait le monde de la taxidermie, si j'ose dire, et qui était déjà très étonnant, très mauvais genre, au point d'avoir obtenu le prix Sade. Et nous avons ce soir deux prix Sade, c'est quand même pas mal, hein. Nous ne recoulons devant aucune dépense, deux prix Sade dans la même émission, tout là est formidable. Et salut aussi à Fleur Hopkins-Loferon.
Bonsoir.
Bonsoir, qu'on a entendu récemment dans l'émission pour parler de Fakir. Et qu'on réentendra désormais, ma foi, tous les mois, pour parler de plein de choses, de tout ce qui traite à l'imaginaire, et surtout et avant tout, à l'imaginaire mauvais genre. You're welcome.
Merci François.
Fleur Hopkins. Et Sean R, dit aussi Sean Rose, que je salue.
Bonjour.
Qui va nous parler de quoi, lui, aujourd'hui ?
D'Alexandra Julien, La Nuit de l'Ours. Ça se passe dans les Pyrénées, pas trop loin de Toulouse.
Voilà.
Et ça sort quand même le 7 mai.
Ça sort le 7 mai, mais on est toujours en avance dans cette damnée émission qui commencera bien évidemment par une performance sonore de notre réalisateur Laurent Polleret, à qui j'ai demandé d'illustrer la devise de James Dean que je vous redonne. Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre. Voilà, on finit toujours par décélérer, là, l'impression que les Sanchez viennent de traverser le Salon du Livre de Paris grâce à Laurent Polleret. Alors, on va commencer avec cette nuit ravagée, Jean-Baptiste Delamo. Quels sont un peu les thèmes, comme ça, les thèmes mauvais genre qui traversent votre œuvre pour l'instant?
Le thème le plus évident, c'est sans doute celui de la maison hantée que j'avais envie de revisiter en voyant de quelle façon est-ce que je pouvais finalement me réapproprier les codes de ce genre-là, qui est peut-être l'un des premiers de la littérature horrifique, en tout cas l'un des plus célèbres. Et puis ensuite, bien évidemment, explorer à la fois la thématique de l'adolescence et de ses fantômes et celle des années 90.
Alors, c'est dans une postface donc, qui clôt, comme son nom l'indique, qui clôt le livre, que vous allez un petit peu nous livrer quelques clés, quelques explications sur l'histoire de ce livre et sa nature. Il va être question d'une maison, on va décortiquer le livre et le récit un peu plus tard dans l'émission, mais au départ, il y a effectivement cette maison de l'impasse des Ormes que vous mettez en scène. Elle a existé, en tout cas. Elle était, vous dites, dans cette maison authentique, donc,
oui, absolument,
que vous avez connue. On avait l'impression que les propriétaires ou les locataires ne l'avaient pas quittée, mais c'était volatilisé, puisque on avait l'impression que la vie s'était arrêtée. Parlez-nous de cette première maison.
J'ai grandi dans un lotissement sud-ouest de la France, en banlieue toulousaine, comme les personnages de ce roman. Et dans ce lotissement, il y avait un pavillon, une maison en apparence tout à fait ordinaire, mais que nous avions de tout temps connue, abandonnée. Et elle nous intéressait, elle suscitait chez nous de nombreuses questions. Et un jour, on a décidé d'en franchir la porte et on s'est aperçu que tout était resté absolument en l'état. La table était encore mise pour le petit déjeuner, les vêtements étaient restés là, et donc pour nous ça a été le sujet de beaucoup de spéculations.
Alors elles ont abouti à quoi ces spéculations ?
Malheureusement, on n'a jamais véritablement su la vérité. Ce qui est certain, c'est qu'on avait retrouvé des cassettes audio, comme je l'explique un peu aussi dans la postface, que nous avions écoutées et sur lesquelles la femme qui avait vécu là avec son mari et ses enfants s'était enregistrée. Ce qui a servi aussi, je crois, un peu de matière première au roman, parce que étrangement, même si c'était un événement relativement anecdotique de mon adolescence, j'en ai rêvé toute ma vie, que je retournais dans cette maison jusqu'à ce que j'écrive La Nuit Ravagée. Depuis que j'ai écrit le livre, je n'en rêve plus. Mais voilà, la dimension du rêve et de cette obsession que représente la maison pour ces jeunes est très présente dans le roman et vient probablement de là.
Donc c'est un livre exorcisme. Est-ce que vous avez aussi exorcisé les années 90, celles que vous appelez les uncanny 90s, avec leur inquiétante étrangeté?
Absolument. Je ne sais pas si j'ai réussi à les exorciser. En tout cas, j'ai tenté au mieux de les représenter depuis la subjectivité qui était la mienne en tant qu'adolescent, vivant dans ces années-là et dans ce territoire-là qui était le lotissement. Et c'est vrai que j'ai toujours eu la sensation, même si à l'époque je n'étais pas capable de nommer cette impression, que flottait dans ces années-là une forme de menace sous-jacente, une sorte de langueur très mélancolique, assez sombre. Et c'est ce que j'ai tenté d'illustrer avec ce texte.
Et vous dites vous-même aussi que d'être jeune gay en province, dans la banlieue de Toulouse, vous entraînait une sorte de solitude et de sentiment de monstruosité. Donc là aussi, on n'est plus dans un effet de littérature ou de cinéma, mais dans une sorte de solitude existentielle et sociale.
Oui, je crois que l'expérience de la différence, du rejet, l'obligation de vivre dans le secret dans ces années-là, ça a complètement imprégné mon imaginaire, bouleversé ma sensibilité au monde, sans doute, et c'est aussi ce qui m'a poussé à me tourner vers la littérature de l'imaginaire et vers le cinéma de l'imaginaire. Et avec la sensation d'y trouver finalement une illustration de ce que je ressentais de manière très instinctive.
Oui, parce que ce livre est à la fois donc un exorcisme personnel d'une jeunesse passée donc près de Toulouse dans les années 90, mais également un hommage à toute cette brochette extraordinaire de cinéastes dont nous parlions d'ailleurs très récemment avec Jean-Baptiste Torré, que ce soit les Wes Craven, les Carpenter et autres. Ça, c'est plus un exorcisme littéraire, parce que là, il y a quand même un legs envoûtant, entêtant, dont vous deviez peut-être aussi, on va en parler plus précisément, vous débarrasser.
Alors, en tout cas, un exorcisme, mais surtout un hommage, parce qu'effectivement, ces films-là, ils ont illustré mon adolescence, ils l'ont accompagné, et j'avais vraiment la sensation que ce cinéma avait la faculté de mettre en forme mes peurs, mes angoisses, et de créer des monstres que dont je sentais la présence d'une certaine façon à l'intérieur de moi.
Alors ce qui est génial, c'est que vous rendez hommage à la collection Terreur Pocket.
Oui, bien sûr.
Collection absolument mythique, où sont parus tous les auteurs qu'on redécouvre aujourd'hui.
C'est vrai.
Sur ce fond noir et ces couvertures d'Olivier Templier, d'ailleurs, qui étaient très, très étonnantes. Et puis également aux VHS fameuses. Avec leur couverture tout à fait extraordinaire. Fleur Hopkins, vous avez apprécié, j'imagine, cette espèce de passage, je dirais, d'une expérience vécue à des formes littéraires.
Ah oui, absolument. J'ai trouvé ça déjà très subtil. J'ai trouvé ça formidable. Moi, j'ai été très intéressée et très touchée par cette évocation de la marginalité de ces jeunes-là qui, en fait, trouvent par le truchement de l'horreur une amplification de ce qu'ils ressentent. Et je suis, à mes heures perdues, une grande fan de Stephen King et j'ai trouvé que le roman était à la hauteur de Stephen King. Et j'ai vraiment apprécié l'autoréférentialité. King flotte, il est aussi cité par nos héros qui disent on n'est pas dans le roman ça, on n'est pas dedans, et pour autant cette maison elle se nourrit à la manière de Gripsou de nos adolescents. Donc j'ai vraiment apprécié ce jeu d'autoréférentialité, dommage, mais aussi vous avez su trouver votre identité distincte. On n'est pas dans un pastiche de King, on est tout de même dans un roman qui vit indépendamment.
Chaudreau.
Donc félicitations, bravo, j'ai trouvé que c'était très réussi.
Merci. Absolument.
C'est l'époque aussi qui était très intéressante, c'est recréer ces années-là et justement cet ennui où on n'était pas vraiment connecté. Donc on était seulement c'était vraiment des vrais cercles, ce cercle d'amis, ils se resserrent et puis c'est vraiment pas, on peut pas s'échapper autrement que par son propre imaginaire qu'on nourrit entre amis. Et c'est vraiment, ce tableau de cette époque qui rend la matière du livre si gripping, comme on dit en français.
Oui, absolument. Et cet ennui, à la fois, il a nimbé notre adolescence, mais je crois qu'il nous donnait aussi la possibilité de développer notre imaginaire, justement de chercher une forme d'évasion à travers la littérature, à travers le cinéma. Et donc finalement, il était très précieux, même si on a parfois détesté ces heures interminables. Avec le recul, on s'aperçoit combien est-ce qu'elles nous ont permis justement de développer et d'explorer le territoire imaginaire.
Charlotte Bourlard, il va être question donc là d'une maison extraordinaire. Question, vous, le roman donc dans À Trois on saute, il y a plusieurs maisons du crime. Et il y a notamment la maison, il y a une maison où vont régulièrement, et pour leur histoire personnelle, les héroïnes. Vous avez dans votre passé aussi une maison comme ça, une maison sur la colline, une masure, une bicoque hantée, une masure fétide qui vous attendait, qui vous fascinait et où vous souhaitiez aller étant petite fille?
Alors non, il y avait
ça peut être autre chose qu'une maison, ça peut être une gare désaffectée, une usine à gaz oubliée, un site.
Une maison dont je me souvienne, c'est une maison qui était en construction et avec ma cousine, on était allé foutre le bordel. Et
Voilà, ça y est, déjà en pré-délinquance, bien avant de rencontrer Marion Mazzori.
Ils s'amusaient à détruire ce qu'ils étaient en train de construire, mais pas de maison réelle en tout cas.
Ben, Laurent Pollerin étant un fan d'urbex, un jour on ira rôder nous aussi dans une maison hantée. En attendant, eh bien, nous allons nous perdre dans celle mise en scène par Jean-Baptiste Delamo. Il ralentit, stoppa et éteignit le moteur de son scooter. Au fond de l'impasse, plongé dans son repli sombre, la maison abandonnée était à peine visible, sépulcrale. Et Alex eut le sentiment qu'une tristesse infinie s'en dégageait. Que le pavillon déserté matérialisait soudain cette peine vertigineuse dont il ne percevait pas encore les contours, ce gouffre de solitude et d'abandon. Dans le même temps, il fut traversé par l'idée, la conviction, improbable qu'il pourrait trouver ici un soulagement à sa souffrance, que cet endroit pourrait en être le réceptacle et qu'il lui suffisait pour cela d'en franchir la porte. Quand il détourna le regard, il prit conscience qu'il s'était tenu là, immobile sous la pluie, pendant plus longtemps qu'il ne l'avait cru. Ses vêtements étaient trempés, ses doigts engourdis par le froid.
Il décida pourtant de pousser le scooter jusque chez lui pour retarder le moment où il lui faudrait franchir le seuil, s'arrêta au portail et alluma une cigarette, qu'il fuma lentement, sous la visière relevée de son casque. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient éclairées, les silhouettes de ses tantes s'affairaient derrière les rideaux au crochet de la cuisine. La sensation qu'il avait éprouvée devant la maison abandonnée l'avait suivi jusque-là, comme un fil tendu dont il ne serait pas parvenu à se défaire. Sa gorge était serrée et douloureuse, son estomac noué.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, donc c'est dans la fameuse maison, aux confins de l'impasse des Ormes. Alors c'est intéressant le choix des Ormes, parce que vous le justifiez par Elm Street, titre d'une célèbre série de films d'horreur, de slasher, d'horrifique américain. Mais l'orme est également un arbre maudit.
Ah ça, je l'ignorais, vous me l'apprenez.
Oui, c'est aussi un arbre maudit. Alors cette maison... Ce qui est formidable dans votre roman, Jean-Baptiste Delamo, c'est qu'elle consonne avec les autres maisons. Il y a cette maison dont vous dites qu'elle elle symbolise, elle porte en elle, elle semble enclore toute l'horreur, toute la tristesse, tout le désespoir du monde, qu'à l'intérieur, quand on s'y hasarde, eh bien, c'est une espèce de désolation, d'ordure, de saleté, enfin que voilà, que tout est là. Mais les autres maisons sont également... en puissance des demeures comme celle-là, puisque vous mettez en scène un groupe d'adolescents, filles et garçons, et que chacun connaît à sa manière un drame familial, qui avec un beau-père, qui avec le compagnon violent et plus barbare presque de sa mère, au sein de familles un peu dégénérées et tout. Et on a l'impression que cette maison-là, c'est très très vivement ressenti par le lecteur, eh bien elle rayonne. Elle rayonne une espèce de champ magnétique, de champ noir qui vous permet déjà de montrer que le drame est partagé.
C'est en partie pour ça que le territoire du lotissement m'intéressait autant, en particulier dans les années 90, parce qu'il était pour nous un condensé d'histoires intimes et de secrets. C'est-à-dire qu'à la fois, on savait très bien ce qui se passait chez les uns et chez les autres, on entendait les couples se déchirer, les enfants se faire battre, on connaissait les histoires, et pourtant il y avait une forme de loi du silence qui voulait que jamais on ne devait s'occuper de ce qui se passait chez les autres. Et finalement, c'est une matière bien évidemment romanesque incroyable. Et cette maison, en apparence tout à fait ordinaire, elle va agir pour ces gamins comme une forme d'écran blanc sur lequel ils vont pouvoir projeter à la fois leurs désirs, mais aussi leurs peurs. Et bien évidemment, des peurs qui se nourrissent de leurs parcours respectifs et de ce que eux vivent chacun au quotidien en termes de violence familiale ou au lycée.
Oui, puisque Fleur Hopkins, cette demeure, quand on y rentre, on n'est pas assailli par une horreur qui viendrait de la cave ou de la fin des temps, mais par une sorte de reflet monstrueux de soi-même.
Et tout à la fois, une certaine douceur. Enfin, j'ai trouvé très subtile la manière dont cette horreur elle émerge, puisque ça commence par la pollinisation, par un parfum de fleurs. Enfin, il y a quelque chose de très capiteux et de très séducteur, en fin de compte, dans cette maison. On a effectivement dans le roman de nombreuses scènes de body horror, mais c'est quelque part plutôt l'aspect séduisant, attirant, magnétique de cette maison qui surpasse même cet aspect très organique. Je spoil, mais cette grand-mère qui enlève ses boyaux. Et voilà, il y a des scènes extrêmement explicites, mais à la fois très poétiques. Enfin, il y a un rapport, je trouve, à ce lieu-là qui arrive à faire émerger des sentiments toujours contradictoires. C'est une fascination pour l'organique, une fascination pour les odeurs. La maison est un espace sensoriel. Et j'aurais aimé peut-être vous entendre sur le pollen. Pourquoi le pollen ? Pourquoi cette présence des fleurs et des végétaux dans cette maison ?
Parce que j'avais ce désir donc de revisiter la thématique et la mythologie presque de la maison hantée, et il me semblait intéressant de faire de cet univers inversé, celui qui va s'ouvrir quand les gamins vont rentrer dans la maison, une forme d'univers organique qui effectivement exercerait sur eux une forme de séduction physique qui les pousserait finalement peu à peu à y revenir encore et encore, au point que à un certain moment ils vont avoir du mal à différencier ce qui est leur vraie vie de la réalité qui leur est proposée dans la maison.
Jaune Rose.
Oui, la maison, en fait, elle est très forte, parce que vous aviez déjà dans Le Fils de l'Homme, il y a une espèce de maison isolée. La maison, comme finalement, il y a quelque chose qui est à la fois proche et très angoissant, mais en fait, c'est aussi la famille, en fait. Puisque vous parliez de lotissement avec des secrets de famille qui étaient, et chacun peut se projeter dans cette maison qui devient, en fait, un symbole de la famille, et qui visite carrément les tréfonds de ces secrets.
Absolument, il y a une symbolique universelle au lieu même de la maison. Et ce que je trouvais assez excitant, c'est qu'à un moment donné, le lecteur soit inévitablement conduit à se demander ce que lui-même trouverait s'il avait passé, comme les gamins de la petite bande, la porte de la maison abandonnée.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que bon, ce groupe d'adolescents qui fréquentent tous le lycée Melville, avec tout ce qui peut s'y trouver de violence et de conflits, ont déjà un lieu qui est une serre. On parlait de fleurs, de pollen, de culture. Alors là, les serres, ce sont aussi des endroits qui peuvent être un petit peu mythiques, puisque croisent dans les serres des plantes, des plantes carnivores, des plantes tropicales, des plantes méconnues. Et là, c'est pareil, on a l'impression que c'est une nouvelle serre, cette maison, qu'elle fait mûrir les angoisses et qu'on peut y cultiver son propre fumier, si j'ose dire, son terreau personnel. Psychique.
Absolument, puisque à force d'y revenir sans cesse, finalement, ces gamins, ils vont nourrir par leur imaginaire, par leurs rêves, par leurs peurs, ils vont nourrir cet univers organique qui, comme une forme de magma ou de terreau en décomposition et en composition éternelle, se constitue, se construit, s'élabore, se développe, jusqu'à prendre finalement une forme quasiment identique à celle qu'ils connaissent dans leur vie réelle. Et les serres, ça a été aussi pour moi un élément important de mon adolescence, puisque comme pour les gamins de la petite bande, il y avait à proximité du lotissement dans lequel je vivais un centre d'aide par le travail avec des grandes serres qui ont fini par être abandonnées et où on aimait beaucoup se retrouver parce que c'était un lieu pour nous qui laissait aussi libre cours à l'imagination et un espace comme ça protecteur pour les jeunes que nous étions.
Fleur ?
Oui, non, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'avais envie de vous entendre, Jean-Baptiste, sur une citation qui a retenu mon intérêt dans la postface. Vous dites qu'il s'agit avec votre roman de croire pour de vrai. Écrire un roman d'horreur demande une foi absolue en la fiction. Je me demandais, voilà, pourquoi ce basculement vers l'horreur et quel est ce point de tension entre le basculement dans l'imaginaire et raconter une part de vous, puisqu'il y a une part d'autofiction dans ce roman. Voilà, comment est venue la germination, en fait, de ce roman ?
Alors moi, j'ai pas du tout eu l'impression de basculer dans l'imaginaire. J'ai toujours eu la sensation que le genre était présent depuis mon premier roman, que j'ai toujours joué avec les limites, la bascule possible dans le fantasmagorique, dans l'imaginaire, dans l'onirisme. Et finalement, pour moi, ce livre, c'est l'aboutissement naturel presque de ceux qui l'ont précédé. Et effectivement, je crois que pour écrire un livre fantastique, un livre horrifique, il faut avoir une foi absolue en l'imaginaire. Si vous-même, en tant qu'auteur, vous n'y croyez pas, il y a très peu de chances que vous parveniez à conquérir finalement le cœur et l'imaginaire du lecteur. Donc cet acte de foi, il me plaisait, surtout à une époque où on est submergé par une littérature du réel, qui moi, en tant que lecteur, me suffoque un peu, et dont j'avais envie naturellement d'explorer pleinement cet héritage que je sentais porter du genre et de ce qu'il avait représenté pour moi, en particulier dans les années 90.
Il y eut un bref silence durant lequel tous entendirent une sorte de frémissement provenant du bout du couloir, de la chambre de Tom restée entrouverte. Il semblait que quelque chose de massif s'y trouvait, dont il ne pouvait que deviner la présence, et que cela frottait, ou plutôt que cela se déplaçait sur les murs. La porte bougea sur son axe, et Tom vit émerger en haut de l'encadrement la tête d'une scolopendre gigantesque dont les antennes tâtonnèrent le plafond du couloir avant qu'elle n'extirpe de l'obscurité son long corps brun rougeâtre et annelé, plantant les pattes de ses premiers segments dans le plâtre des cloisons. Une odeur indéfinissable de tourbe humide et d'ammoniaque se répandit vers eux. Bouche bée, Tom se mit à reculer vers Girard, sans pouvoir détacher le regard de l'animal. Il était en tout point identique à Newt, mais devait mesurer à vue d'œil une quinzaine de mètres. Et il possédait des crochets à venin qui faisaient la taille des avant-bras de l'adolescent. Ah voilà, Jean-Baptiste Delamos, on ne va pas en dire plus. Mais là, on sent l'influence quand même marquante de toute votre vidéothèque, et notamment de The Thing de John Carpenter, dont quand la bête se dresse, là, on a un effet à peu près similaire. Toute la bande est recluse, terrorisée dans le couloir, et apparaît la scolopendre.
Absolument, scolopendre qui là aussi vient directement de mon adolescence, puisque gamin j'étais passionné par les insectes, j'avais fait un stage chez un entomologiste qui possédait une scolopendre géante dans un terrarium, et j'avais trouvé cette créature absolument effroyable, et moi qui n'ai de crainte d'à peu près aucune bestiole au monde, j'avoue que la scolopendre reste celle qui me fait un peu frissonner quand j'ai l'occasion d'en croiser une. Et donc je crois que c'était quasiment, même au début du roman, je me suis dit il faut que tu trouves une façon de faire exister cette créature. Et bien évidemment, de façon assez spectaculaire. Donc voilà, c'est un des gamins de la petite bande qui possède une scolopendre qui, dans l'univers inversé de la maison, va prendre des proportions, comme on l'a vu, très, très différentes.
Alors l'intérêt des salons du livre, c'est que tout le monde y vient, tout le monde peut y venir, et que parfois, on reconnaît des gens. Et que qui vois-je à l'arrière-plan ? Monsieur K, venez par ici, cher ami. Le meneur de revue de la Barbichette.
Ça va, François ?
Ça va bien ? Alors, vous êtes au Salon du Livre, oui, pour y dédicacer un livre ou pour y faire
un
concert ?
Pas du tout, on fait cabaret au Salon du Livre, dans l'espace cabaret qui se trouve en haut, la Chansonnière. Donc,
d'habitude, la Barbichette, c'est au Moulin Rouge.
Tout à fait.
Et là, le Moulin Rouge est venu au Salon du Livre. Merci,
oui.
Au Salon du Livre.
On s'amuse, comme
voilà,
d'habitude.
Et on peut vous entendre. Alors là, nous enregistrons samedi matin, mais vous enregistrez quand, vous ? Quand sur scène ?
La semaine prochaine, à la machine du Moulin Rouge.
D'accord, très
voilà.
Bien.
Et bah, on fait encore des bêtises.
On indiquera sur le site vos dates. Et en attendant, on va vous écouter chanter.
Oui, alors j'ai choisi une petite chanson un peu comme ça, sur les rêves. Ça me semblait à propos. Alors, il n'y a pas d'accompagnement musical, c'est comme ça, c'est offert, c'est cadeau.
Cadeau.
La forêt bleue sans elle, mais qui entend la mer, les loups de naphtaline et les larmes de bière. J'irai me cacher, rêvant au fils d'Icare. File ma folle, emporte les chaises cassées. Loin de mon nénuphar, les étoiles en bocal. J'ai peur du noir, vite que vienne l'orage. J'irai me cacher, rêvant au fils d'Icare. File ma folle, emporte les chaises cassées. Porte de pétales fermées, marelle en pain d'épices. Vers de terre découpé, sommeil sans symbole. J'irai me cacher, rêvant au fils d'Icare. File ma folle, emporte les chaises cassées. File ma folle, emporte les chaises cassées.
Merci, monsieur K. Merci.
À bientôt.
Ah ben, à très très vite. Et on vous retrouve donc au Moulin Rouge la semaine prochaine.
Tout à fait.
Dans le cadre de la Barbichette. Et puis merci d'être venu nous voir.
C'est
et
un
nous
plaisir comme d'habitude.
De vos chansons. À très vite. Alors, vous appréciez Jean-Baptiste Delamo, Charlotte Bourla.
C'est un petit intermède bienvenue.
Voilà. Oui, on parlait, alors là il était question des rêves et des cauchemars. On parlait de la scolopendre. Au départ, la scolopendre, elle est dans un vivarium.
Oui.
Et le garçon l'observe, ce qui lui permet aussi d'avoir une amie et puis d'oublier un peu l'enfer familial. Et puis après, la scolopendre, on vient de l'entendre, elle sort. Elle semble sortir comme ça, elle semble s'épanouir, grandir, croître, échapper à son truc. C'est un petit peu le sujet du livre, ça, Jean-Baptiste Delamo, c'est que tous les terreurs, les cauchemars qui sont dans une espèce que la société encage dans un vivarium, brusquement un jour, grâce à vous, grâce à des demeures perdues au fond des impasses, échappent à tout ça et brusquement retrouvent leur vraie nature et leur vraie taille.
Oui, en effet, c'est le personnage de Tom, un des gars de la petite bande, qui fait lui-même un stage chez un entomologiste, comme moi dans le temps, et qui va subtiliser une petite scolopendre, en sachant que devenue grande, elle pourrait potentiellement le débarrasser de son beau-père, car elle a un venin extrêmement dangereux. Et effectivement, parce qu'il a fomenté cette idée de meurtre qu'il ne réalisera pas dans la vraie vie, dans la maison, cette créature va prendre des dimensions absolument gigantesques. Et en gros, c'est comme ça que fonctionne cet endroit, c'est-à-dire qu'il va refléter les peurs et les désirs de ces gamins. Et je crois que c'est aussi d'une certaine façon comme ça que la littérature fonctionne, ou le cinéma de genre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il nous permet de projeter nos propres peurs et notre propre imaginaire.
Dernier mot, Chandra.
Oui, en fait, quand je voulais rebondir sur l'idée de fiction comparée à celle de réel, à l'opposition du réel. Je pense que la fiction fait partie du réel. En fait, c'est juste que le genre fait sauter le verrou de la raison, mais le réel, qui est le réel de nos peurs, de nos cauchemars, il est là, de nos fantasmes, de nos désirs, et c'est ça que permet le genre. Et c'est pour ça que vous l'exploitez bien avec nos peurs des insectes.
Tout à fait, je crois que vous avez tout à fait raison. Ça permet à la fois de dévoiler aussi certains aspects de la réalité que le réalisme n'aurait pas permis d'atteindre. C'est en ça que le genre est passionnant.
La nuit ravagée, la collection Blanche de chez Gallimard est aujourd'hui blanche de terreur à cause donc du très très beau livre de Jean-Baptiste Delameau qui est à la fois un exorcisme peut-être d'une jeunesse passé dans les années 90 près de Toulouse, une évocation sociologique aussi, il faut le dire un peu, de tout le milieu que vous avez pu connaître, puis un formidable hommage à la fois à toutes ces collections de terreur et de fantastique que nous lisions dans ces années-là. Mauvais genre démarre en 92, on avait fait une émission spéciale là-dessus, donc notamment Terror Pocket, et puis surtout un hommage à la vidéothèque infernale, celle de John Carpenter, de Wes Craven et autres génies du film d'horreur. La nuit ravagée, c'est aux éditions Gallimard. One baby tea. No, I can't go to sleep. All the years I try to clear it from my mind. Charlotte Bourlard, à trois, on saute. Alors, c'est la dernière phrase du livre, bon, mais il en est d'autres avant. Et effectivement, là, le titre et la phrase ultime résument parfaitement le propos, mais on ne va pas en dire beaucoup plus, il faut quand même connaître l'histoire. Alors, votre précédent texte publié, L'apparence du vivant, évoquait justement une jeune fille qui rencontrait un couple extraordinaire de taxidermistes. Et là, vous avez complètement changé de... Vous avez complètement changé d'univers. Comment en êtes-vous venu à nous raconter cette histoire de Rachel et Marie, qui sont, je les cite elles-mêmes, deux dégénérés sociales. Je les cite. Hein. Alors, on leur pose la question, qui vous êtes, répondent des dégénérés.
Je précise quand même que c'est un des personnages du bouquin qui les traite de dégénérés. Et elles ne s'en offusquent pas du tout, elles ne se vexent pas et elles finissent par le revendiquer et ça leur va plutôt pas mal au final. Et pour répondre à votre question, je crois que j'avais très envie de sortir des couloirs du funérarium et de l'obscurité de la taxidermie. J'avais envie d'aller vers quelque chose de plus léger et vers des personnages plus joyeux. D'ailleurs, on le voit en regardant la couverture qui est beaucoup plus colorée. J'avais envie...
Couverture d'Olivier Fonvielle, très réussie d'ailleurs, il faut le dire. Donc vous vouliez aller vers cette espèce de coup de crayon incisif, un peu comme ça, au déboté, avec des couleurs plus violentes que les couleurs froides et un peu figées du funérarium.
Et j'avais envie d'aller vers des personnages... Parfois dans la vie, on rencontre des gens et il y a certaines rencontres qui sont inspirantes. Il y a des gens qu'on rencontre et sans les connaître, ils font travailler notre imagination, ils nous donnent envie d'en imaginer plus. Et c'est marrant, il y a des gens que je rencontre et que je déteste direct, j'ai envie de les voir crever, et il y en a d'autres que je rencontre et je les adore direct, et ça se base sur vraiment pas grand-chose. Et voilà, c'est vrai que il y a des personnes réelles à la base de... Enfin, je vais peut-être pas en dire trop, mais...
Mais faut pas. On peut en dire suffisamment, mais pas trop. Alors, Fleur Hopkins, là, il y a donc deux personnages dont la vie semble être une espèce d'extraordinaire improvisation permanente. C'est ça qui est fascinant dans ce récit, et ce qui pose d'ailleurs sûrement des problèmes d'écriture et de structure, c'est qu'il faut donner bien sûr, elles habitent dans un bateau, elles ont quand même un passé, il y a vraiment une histoire. Mais la vie au quotidien est une improvisation permanente, que ce soit dans l'alimentation, dans le jeu avec les autres, dans la vie sociale. On est dans une espèce de jeu, de coup de dé incessant.
C'est ça, on a l'impression d'un tissage en fait, que je trouve tout à fait prodigieux dans le roman et qui m'a posé question au début. Je ne savais pas si j'appréciais vos héroïnes. Ça m'a posé question, ces femmes-enfants qui à la fois sont fascinantes et détestables, qui ont des actions qui sont pour certaines innommables, mais qui, dès lors qu'elles ne sont pas intériorisées, elles sont faites par accident ou elles sont faites par nécessité. Je pense à ce gros Alain, on a tous, lecteurs, voulu qu'il disparaisse. Alain, et par chance il disparaît, et j'ai beaucoup aimé en fait ce travail sensible que le lecteur fait à vos côtés, où il se surprend à adorer vos héroïnes et à souhaiter à tout prix qu'elles continuent en fait leur pérégrination, leur route complètement délirante. On a quelque chose un peu du road movie, et ce qui est très paradoxal, c'est qu'on ne cesse de revenir à ce lieu du bateau. Le bateau, en fait, cette petite péniche est un point repère, un peu comme votre maison, Jean-Baptiste, et j'aurais aimé savoir voilà pourquoi ce choix de la vie sur l'eau, qui quelque part métaphorise bien les errances de nos personnages, qui sont un peu comme des chiens errants dans la rue en fait, qui galopent au gré des aventures. Pourquoi ce rapport à l'eau, à la péniche?
Charlotte Bourla.
Alors, parce que je vis à Liège, à deux pas de la Meuse, et qu'en fait, cet univers nautique existait à deux pas de chez moi. Et ça m'intriguait, ces gens qui vivent sans se déplacer, mais qui vivent sur l'eau. Parce qu'en fait, c'est un quotidien assez particulier, que je ne connaissais pas du tout, qui m'intriguait. Et donc, j'en ai parlé à une personne qui a demandé à quelqu'un, et j'en suis venue à rencontrer Martin, qui vivait sur une péniche et qui avait une vedette hollandaise qui l'a mise à ma disposition pendant quelques jours. Donc j'ai pu vivre comme mes héroïnes sur une vedette hollandaise où il y avait ni l'eau ni l'électricité, et je trouvais que c'était hyper romanesque et poétique, et j'avais envie d'imaginer une histoire qui se passerait dans cet univers-là.
Alors il y a ce personnage, donc Rachel et Marie. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est comme un peu chez Jean-Baptiste Delhamo, il y a une maison. Alors, ça n'est pas aux confins d'une impasse, une maison oubliée où s'accumule et, d'une certaine façon, croît l'horreur du monde sur le mode du souvenir et de la mémoire. Là, c'est une maison qui est bien vivante et même peut-être trop vivante, puisque la propriétaire, Solange, est entrée dans une sorte de décadence physique, sociale, et je veux pas dire de décadence psychologique, mais d'évolution un peu monstrueuse. Elle est entourée de gamins qui viennent là comme dans un parc, un bac à sable ou un parc à jouer, une cage à l'écureuil, une foultitude de chats qui font tout ce que fait un chat quand on ne le surveille pas.
40 kilos de croquettes, hein, si voilà, la mémoire est bonne, il faut pour les nourrir.
On les nourrit avec des seaux de croquettes et des bassines de croquettes. Ils dévorent tout. Et il y a au milieu de celle, Solange qui est couchée avec ce couteau de cuisine qui lui permet de se défendre. On regarde la télé. Là, il y a quand même une demeure qui est emblématique peut-être de ce qu'est votre vision de la société peut-être et du monde, qui est une espèce de cocotte minute qui finira par exploser et qui est là en permanence en train d'une friteuse comme ça, qui n'arrête pas de bruire et de croître en catastrophe.
C'est marrant, j'ai lu, c'est une journaliste qui a écrit que Solange était comme l'ogre d'un conte qu'on engraissait, et ça m'a beaucoup plu. Bah oui, il y a cette maison qui est infestée par des dizaines et des dizaines de chats qui se reproduisent de plus en plus nombreux. Et elles viennent en fait nourrir et engraisser ce linge qui ne bouge plus de son lit. Et elles exercent leur cruauté. Et en même temps, tout est toujours dans le jeu. Parce qu'il y a énormément d'enfance chez surtout chez Rachel, mais chez Marie aussi. Et elles sont en permanence en train de jouer, d'inventer, de ne rien prendre au sérieux.
Mais c'est ça qui est frappant, c'est la dimension ludique. C'est une dimension ludique et monstrueuse. Les personnages jouent en permanence avec tout. Ils jouent, quand ils mangent à peu près n'importe quoi dans une espèce d'improvisation permanente. Ils jouent avec les gens qu'ils rencontrent. Si vous les croisez, parce qu'elles n'arrêtent pas de bouger, elles sont en permanence et en mouvement. Et tous les gens qu'elles rencontrent, il y a des espèces de proies successives qu'elles rencontrent dans le train, qu'elles rencontrent dans un carnaval, qu'elles rencontrent dans des magasins, qui sont véritablement des figures de victimes. Et on attend d'ailleurs quelle est la prochaine victime qui va arriver. C'est ça qui est impressionnant, c'est de mettre en scène des personnages qui sont dans l'instant permanent. On est dans le présent. Il y a une mémoire qui est évoquée, bien sûr, mais on est toujours dans la seconde précise où se déroule le texte. Charlotte Bourlard.
Mais je pense qu'elles ne sont pas méchantes dans le fond, mais c'est vrai que j'adore l'idée de franchir les limites, parce que dans la réalité, on peut jamais faire ce qu'on a envie de faire. Et du coup, j'avais envie de m'amuser dans un roman à franchir toutes les limites que j'avais envie de franchir sans finir en tôle. Donc le fait d'écrire permet ça. Et comme c'est moi qui écris et que je me sens pas très adulte, c'est vrai que ça se ressent dans mes personnages.
Alors on va écouter un extrait donc de « À trois, on saute ». Tu as perdu. Il s'esclave comme deux débiles. Rachette lui ôte son caleçon. Sa bite est assortie à la carpette. Elle a la couleur terne des vieux roses. On l'observe qui se dresse sous une touffe grisonnante. Elle est prête à nous honorer. Maintenant, ferme les yeux. Il obéit, de plus en plus émoustillé. Rachel lui arrache un poil. Alain pousse un cri orgasmique. La vie ne l'a jamais autant excité. On referme la porte de la salle de bain et on se glisse sans lui jusqu'à son lit. Ça caille. On se frotte pour se réchauffer. Rachel goûte la vanille. À côté de nous, le plancher grince. Alain est sorti de la baignoire. Il se branle debout, à poil devant la Vénus. Son corps ressemble à un squelette qu'il essaie d'incruster sous les draps. On roule au bord du lit. Il se penche pour mater. Il voudrait qu'on l'accueille. Je lui ordonne de rester à distance. Il se retient pendant quelques minutes, à genoux, la bouche ouverte. Puis sa tête se rapproche de Rachel. Sans prévenir, il lui fourre sa langue au fond de la gorge. S'ensuit un cri perçant. Il continue à hurler tandis qu'il bondit du lit en s'agrippant le bas du visage. Le sang coule entre ses doigts. Il mâchonne des phrases qu'on ne comprend pas. Son érection est retombée. Psychopathe ! Sa bouche dégouline sur le matelas. Elle se lèche les babines à la manière des grands félins. Devant le miroir, Alain évalue les dégâts. Je m'approche. On ne voit rien. Ça pisse le sang. Je lui file un mouchoir. Il m'empoigne. Sa tête est cramoisie. Il arrête de crier. Il veut qu'on s'en aille. Je promets. Il crache quelque chose à propos d'un hôpital. Puis il s'habille en tremblant. On dirait un robot qui flageole. J'enfile son peignoir avant de le suivre dans les escaliers.
France Culture. Mauvais genre, François Angelier.
Un extrait d'A3, on saute de Charlotte Bourlard aux éditions Diable Vauvert, Chaude Rose.
On a vraiment envie de les rencontrer, c'est super.
Rachel Marie et Charlotte Bourlard, on pourrait la rencontrer au Salon.
En tout cas, je voulais faire un petit mot encore sur la couverture parce que elle est vraiment très très belle. Et bravo de ne pas céder aux sirènes du marketing et mettre des chats sur une couverture. Ça, c'est souvent.
Il y a une girafe.
C'est vrai, hein, souvent. Mais bon. Est-ce que ces chats, c'est pas notre, aussi notre consumérisme ambiant qui est un peu décrit, ces chats qui se goulent?
Mais le chat, c'est un animal ambigu parce que c'est à la fois un animal domestique et puis c'est aussi un félin. Et ces chats rêvent de manger Solange, en fait. Donc c'est marrant parce qu'ils sont traités, à la fois les animaux sont tout en bas de la hiérarchie, ils sont dominés même par les dominés, et à la fois ces chats sont en train de prendre possession de la maison, ils sont de plus en plus nombreux, ils se laissent de moins en moins faire, et en fait au début du roman ils sont au rez-de-chaussée et puis ils commencent à grimper au premier étage et puis ils se rapprochent de la chambre de Solange et elle essaye de se défendre avec un couteau. Et voilà, je vais pas.
C'est pour pour revenir au genre, et ce que fait le genre, c'est que renverse la hiérarchie. Là, cette pyramide dont vous dites que les humains sont en haut et les animaux en bas, ça renverse la vapeur, si je puis dire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que de toute façon, la raison, justement, elle est remise en question à chaque fois. Et grâce au chat qui est une présence ambiguë, comme vous dites.
Mais j'adore l'idée de renverser le pouvoir.
On avait compris. C'est assez nettement le sujet du livre. Oui, parce que là, ce sont des, comment dirais-je, ce sont des personnages qui mettent au défi la société de les contrôler et même de les découvrir, puisqu'elles sont en permanence en mouvement, elles n'ont pas de stratégie, elles dilapident tout, leur vie est dilapidée, les quelques biens qu'elles arrivent à avoir est dilapidé. Et puis, pour conclure, Fleur Hopkins. Il y a une mise en scène des meurtres, de la mort, dans ce roman de Charlotte Bourlat qui est très, très étonnante.
J'espérais qu'on lise l'extrait de Solange et la friteuse.
Ben non,
je suis particulièrement déçue. Je conseille à tout le monde d'aller lire ce passage.
Il faut bien vivre sur...
Savoureux, croustillant, vraiment, c'est mon extrait préféré. Et ça nous permet d'évoquer le corps. Le corps, c'est vraiment chez vous, Charlotte, une constante. Il était déjà présent sous la forme de taxidermie. Ici, on le retrouve dans un rapport, je dirais, un peu dual, j'ai le sentiment. On a lu un extrait précisément qui nous parlait d'un corps, alors qui pourrait être un corps érotique, mais en fin de compte, notre bonhomme, il est pas si séduisant que ça. On est plutôt dans un corps gras, dans un corps qui est présent charnellement mais qui n'évoque pas d'érotisme. Et de l'autre, on a cette omniprésence du corps mort. Du corps mort, mais du corps sans vie, du corps inanimé dont on ne sait même pas s'il est vivant ou s'il est mort. C'est une question qui est régulièrement posée par nos héroïnes après qu'elles aient accidentellement mis à mal quelqu'un. Pourquoi cette obsession du corps et ce corps qui est toujours un peu à côté de nos attentes?
Charlotte Bourlat.
En fait, elle se retrouve presque à jouer à la poupée avec un cadavre et je pense que c'est une façon d'appréhender la mort et de se familiariser avec elle. Le fait de maquiller un cadavre comme on maquillerait une poupée, c'est une façon, j'imagine que pour moi, c'est une façon de gérer mon angoisse par rapport à la mort et de peut-être la dédramatiser. Et en fait, ce sont deux héroïnes qui non seulement ne se refusent rien, profitent au jour le jour sans se tracasser ni des autres, ni du lendemain, ni des conséquences de leurs actes. Et ce sont deux héroïnes qui ne prennent rien au sérieux. C'est une manière d'appréhender la vie, je pense. Et c'est une manière de se détendre face à la réalité, de la réalité. Je ne sais pas si je m'exprime. Enfin,
si.
Charlotte Bourlat, à trois, on saute à ne pas manquer surtout, soyez présents, sautez avec elle, c'est un roman paru aux éditions Au Diable Vauvert, donc il faut lire aussi le précédent, qui est toujours disponible d'ailleurs, L'apparence du vivant.
Oui, absolument. Oui, tout à fait.
Donc L'apparence du vivant, et puis donc surtout le dernier, à trois, on saute. Thank you. Mauvais genre au Salon du Livre en ce samedi. Deuxième partie de l'émission Les Chroniques. On commence avec vous, Sean Rose, et avec Alexandra Julier.
Oui, alors, ouais. Alexandra Julier, c'est là, avec La Nuit de l'Ours, son prochain roman qui sortira le 7 mai. Alors voilà, c'est l'atmosphère, on est un peu dans ce temps ici, il fait beau, il fait frais, donc c'est plutôt un soleil d'hiver, mais vous voyez ce soleil assez, un ciel bleu et un soleil d'hiver, donc la narratrice héroïne lève les yeux vers le ciel et un homme se tient les bras écartés en haut d'un immeuble, mais tout d'un coup elle se dit, tiens, il faut que je... D'instinct elle recule et l'homme saute. Et donc, en fait, elle évite de... Ben, elle voit la mort et elle évite de mourir, évidemment. Et tout ça va provoquer quelque chose. Alors, Angèle, l'héroïne, a 39 ans. Elle vient de se faire quitter par l'homme qu'elle aime, l'homme de sa vie. Elle n'a pas d'enfant. Et c'est le choc. Donc, sa meilleure amie lui dit, ben, prends un bain, détends-toi. Donc, elle prend un bain. Et là, il y a de la vapeur sur le miroir. Et elle voit dans le miroir, tracé, va crever. Voilà, tout ça, elle tourne bourrique, elle se dit, est-ce que je deviens folle ? Elle se dit, bon, il faut que je fasse quelque chose et je vais aller voir mon vieux père. Et voilà, et le père qui perd sa mémoire. Donc tout ça, c'est le commencement de ce livre qui nous embarque en fait avec ce père qui est un ancien psychiatre dans un village des Pyrénées où c'est pas une maison justement, mais c'est une clinique, un hôpital très spécial tenu par une famille. Et il y a tout un mystère. Et cette femme qui est cette narratrice un peu qui est perdue va essayer de retrouver les secrets de ses origines. Et parce que elle n'a plus de mémoire entre 0 et 6 ans où elle a vécu dans ce village. Donc en fait. Dans ce village, ça s'appelle La Nuit de l'Ours parce que dans ce village, il y a des rites, il y a une fête médiévale, des rites de passage où les gens se déguisent en ours et peuvent faire, comme dans le carnaval, n'importe quoi, renverser les valeurs justement sociétales et elle se fait agresser. Donc, il y a tout un mystère qui est très curieux, mais en fait, le vrai mystère, finalement, c'est vraiment qui on est plus que qui est l'autre. Il y a ce côté un petit peu métaphysique justement des origines et il y a aussi cette idée du déjà-vu. Ça, c'est vraiment très important, comme chez vous, dans votre livre, Jean-Baptiste. C'est le déjà-vu qui crée, en fait, l'horreur. Parce qu'en fait, l'horreur, elle vient du fait que, on l'a déjà vécu, on le revit tel un cauchemar qui se répète. Donc voilà, elle nous entraîne, surtout, Alexandra Vuillet, qui avait déjà été l'autrice de « Car un jour de vengeance », donc un thriller psychologique, déjà avec une mécanique extrêmement bien rodée. Et on nous entraîne surtout sur cette femme qui essaie de se reconstruire et avec ce mystère et cette famille puissante.
Merci Sean, Alexandra Julier, La Nuit de l'Ours chez Calman Lévy, mais sortie le 7 mai. I see the bad moon rising. I see trouble on the way. Fleur Hopkins, Ferron, chronique dans Mauvais Genre. Allons-y.
Alors, cher Jean-Baptiste, chère Charlotte, cette chronique, elle vous est dédiée. Ce qui m'a frappé en lisant vos romans, c'est votre capacité à mettre en doute l'ordinaire. Alors, chez vous, Jean-Baptiste, c'est la maison qui sert de catalyseur. Elle matérialise les pires craintes et les désirs secrets de vos personnages. Chez vous, Charlotte, ce sont plutôt des rencontres banales avec des personnes ordinaires qui vont précipiter des meurtres quasi accidentels, on va dire. En tout cas, vous avez en commun une appétence pour le body horror, pour la vie des corps, qui va manifester chaque fois la sortie de l'enfance et matérialiser aussi l'expérience de la marginalité. Vous nous amenez, au fond, à questionner la manière dont, je vais citer Stephen King ici, je pense que ça fera plaisir à Jean-Baptiste, dans « Anatomie de l'horreur », il nous dit « On invente des histoires d'horreur pour nous aider à supporter celles qui sont vraies. » Alors moi, j'aimerais vous proposer à tous les deux trois coups de cœur horrifiques récents qui sont peut-être tous des histoires vraies. Alors le premier, il s'agit de Keith Rawson. C'est un auteur punk américain dont la spécialité n'est pas si éloignée de tous les deux. Puisque vous, Jean-Baptiste, vous avez pratiqué une forme d'autofiction, vous, Charlotte, vous vous êtes intéressée à une réécriture en quelque sorte de l'affaire des sœurs Papin, eh bien, Keith Rawson, lui, c'est le pastiche, le détournement, l'hommage à la culture horrifique.
Dans Road 7, par exemple, on a un étudiant atteint d'une tumeur qui part en Islande en quête d'une légendaire licorne en compagnie d'un cryptozoologue un petit peu farfelu. Dans Fever House, c'est une main de gloire tranchée démoniaque qui précipite l'apocalypse. Et dans son prochain roman que je vous recommande très chaleureusement, apparaître en septembre chez Random House, on suit à présent Duane Minor, un vétéran de la guerre du Vietnam qui est absolument traumatisé par ce qu'il a vécu et à plus forte raison par la disparition de sa femme et de sa belle-famille, tués alors là par une créature, par un coupable, un être dont on ne dit pas le nom. Je cite Duane, « Je ne sais pas ce qu'il est. Il en a pourtant une idée. Quelque chose de si délirant, de si insensé et de si terrible qu'il ne peut pas se résoudre à le dire à voix haute. Parce qu'une telle chose ne devrait pas être possible. Et pourtant. » Alors si notre héros, Duane Minor, il fait figure ici d'incrédule, c'est parce qu'il a face à lui un vampire. Ce vampire, il est très éloigné du folklore, il ne se transforme ni en brume, ni en chauve-souris, mais il est absolument délirant et inquiétant. Coffin Moon, en définitive, c'est un roman poignant, c'est un roman acide qui nous parle du deuil, qui nous parle de la paternité, qui nous parle des traumatismes. C'est le mélange parfait entre True Grit des frères Coen et Génération perdue de Joël Schumacher. Je le recommande aux amoureux de Joe Hill et aux amoureux aussi de Grady Hendrix parce qu'il y a un petit peu d'humour dans ce roman. Alors maintenant, on laisse de côté le folklore, on laisse de côté les contes de fées, on va plutôt évoquer les légendes urbaines et les rumeurs. Maintenant, on va voir du côté des jeux vidéo et je vous recommande chaleureusement de jouer à Urban Myth Dissolution Center, édité par Suecha Games, publié en février. Cette fois, vous incarnez Azami, c'est une petite adolescente qui est dotée d'un pouvoir de clairvoyance. Elle voit ce qu'elle appelle des anomalies et elle intègre, alors un petit peu à la manière de Scully dans X-Files, un centre de dissolution des légendes urbaines destiné à explorer les possibilités extrêmes. Alors là, cette fois, il y en a pour tous les goûts. On a des creepypastas, on a des légendes urbaines, on a des mythes. Et ce jeu-là, il se vit sous la forme d'une visual novel, un roman graphique avec des petits moments de point and click. Vous allez fouiller les réseaux sociaux, vous allez recueillir des témoignages. L'idée, c'est d'enquêter sur des légendes diverses et variées. Vous avez Bloody Mary, vous avez l'homme sous le lit, vous avez la veille, la vieille des croisements. En définitive, un jeu au rythme lent, mais à l'ambiance parfaitement creepy, qui plaira aux fans de Junji Ito.
Merci Fleur, vous retrouverez bien évidemment tous les renseignements sur le site de Mauvais Genre. Je rappelle donc les ouvrages de nos invités. Merci donc à Charlotte Bourlard, à Jean-Baptiste Delamo d'avoir été à Mauvais Genre. La nuit ravagée, c'est chez Gallimard et à trois on saute, c'est aux éditions Au Diable Vauvert. Alexandra Julier, c'est chez Calman Lévy. Renseignements sur le site pour les chroniques de Flore. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, toute l'équipe technique donc de Radio France au Salon du Livre, Johanna Gabric, Olivia Branger, Alexander James et Charles Bouticourt, Flore Hopkins-Leferron, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Chaune Rose et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie du grand metteur en scène japonais Kyoichi Kurosawa. Mauvais Genre, France Culture, les fictions. Alors maintenant, nous allons avoir deux Mauvais Genres selon. D'abord, Mauvais Genre selon Jean-Baptiste Delamo, et ensuite Mauvais Genre selon Charlotte Bourlard. Donc on commence, comme d'habitude, vous dites « Pour moi, le Mauvais Genre, c'est… » et après, vous terminez par « C'est ça, pour moi, le Mauvais Genre. » Et entre les deux, vous nous offrez votre défi.
Pour moi, le… Ah, pardon. Pour moi, le mauvais genre, c'est ce qui se dérobe sans cesse à la norme, qui refuse les règles établies par les autres. C'est ce qui renverse la table. C'est ce qui fait désordre. C'est ça, pour moi, le mauvais genre.
Très bien. Merci, Jean-Baptiste. Charlotte.
Les mauvais genres poussent dans les interstices.
Alors, attention, pour moi, le mauvais genre, c'est...
Ah oui, pardon. Pour moi, les mauvais genres poussent dans les interstices là où personne ne les a invités. Ils se déploient sans gêne, ils ne demandent pas la permission. Ils s'immiscent au cœur de l'obscurité, ils la caressent pour mieux l'apprivoiser. Les mauvais genres fouillent les méandres poisseux de l'âme humaine, ils sondent les profondeurs infinies. L'odeur âcre qu'ils exhalent nous attire autant qu'elle nous révulse. Il faut s'en méfier, c'est une odeur dont on ne se débarrasse pas.
C'est ça. C'est ça pour moi le mauvais genre.
C'est ça pour moi le mauvais genre.
Voilà. Merci. Attends, les photos. Les photos.